qu'il est difficile de répondre dignement aux paroles d'un chant pareil. Des mots sublimes, priorité, essentiels, nous voudrions, mais je n'y arrive pas. Dans la même ligne de pensée de ce que Dieu attend de nous, offrande, pas seulement offrande financière, bien d'autres formes d'offrande. Je vous propose de suivre ou de lire avec moi un passage de Malachie, le dernier des prophètes. Quelques versets du premier chapitre, tout simplement. Alors, si vous êtes adepte d'une autre traduction, je suis un peu navré, c'est un passage qui fait l'objet de bien des notes, parce que le texte semble difficile à traduire, mais au fond, vous allez comprendre que le reproche que Dieu adresse à son peuple est d'une grande clarté. Malachie, premier chapitre, tout d'abord les versets 6 à 8. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est le respect qu'on me doit? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, et j'ajoute donc à nous, puisque nous sommes sacrificateurs. Nous formons un sacerdoce royal pour Dieu. Vous dites, en quoi avons-nous dédaigné ton nom? Vous apportez sur mon autel de la nourriture souillée et vous dites, en quoi t'avons-nous souillé? C'est en disant, la table de l'Éternel est à dédaigner. Quand vous amenez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en amenez une boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel des armées? Et je reprends au verset 11. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. En tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on apporte une offrande pure. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais c'est vous qui le profanez, en disant, la table du Seigneur est souillée, et ce qu'on en retire est un aliment à dédaigner. Vous dites, quelle fatigue, et vous en faites fi, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme. Voilà l'offrande que vous amenez. Vais-je la recevoir de vos mains, dit l'Éternel? Maudit soit le perfide qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête mutilée. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Vous avez remarqué qu'il s'agit pas simplement d'offrir, mais de savoir ce que l'on offre à Dieu et pourquoi on le fait. J'ai eu la curiosité de regarder dans une concordance et j'ai été effaré par le nombre de références qui font mention du verbe « offrir » à tous les temps, présent, futur, subjonctif, impératif, que sais-je, à toutes les personnes, moi, tu, il, nous, vous, et avec toutes sortes de compléments d'objets directs. Offrir son amour, offrir des animaux, offrir son respect, offrir son attention. Au fond, c'est une idée très riche que l'on trouve dans l'Écriture. L'offrande occupe donc une grande place dans la Bible. Bien sûr, principalement dans l'Ancien Testament, dès la Genèse, surtout dans Lévitique et Nombre, chez les prophètes, mais également dans les psaumes. Et dans le Nouveau Testament aussi, quelques références à ce que nous offrons à Dieu. Le geste « offrir » est lui-même important. Il ne faut pas le banaliser. Nous offrons, nous donnons, nous apportons à Dieu. Tout aussi important est la nature et la qualité de ce que nous offrons à Dieu. Et aussi important le moment que l'on choisit pour apporter cette offrande à Dieu. Et je me suis d'abord posé la question, mais pourquoi donc offrir à Dieu ? Pourquoi offrir ? Il y a plusieurs raisons. D'abord par soumission volontaire. Vous avez remarqué que Dieu se présente comme digne, grand, roi. C'est un ordre clair. Nous nous soumettons à ce qu'il nous demande et il nous dit « offrez-moi ». Dieu est maître absolu, on l'a chanté. Il est roi des rois, seigneur des seigneurs, créateur magnifique, père tendre, secourable. Je ne sais pas si la langue française, à laquelle je tiens beaucoup pourtant, contient tous ces adjectifs que l'on aimerait accoler au mot « Dieu », au nom de Dieu. C'est la première raison. La deuxième raison, je peux penser par suggestion, c'est-à-dire soumission involontaire. Autrefois, lorsqu'un général remportait une victoire, les vaincus lui apportaient quelque chose. L'hommage, la reconnaissance, leur propre être. C'était pas volontaire, c'était forcé, mais parce qu'il était le vainqueur, il méritait l'offrande. C'est l'hommage que l'on rend au vainqueur. Et nous sommes en pleine période de Jeux Olympiques. Vous savez que tous ceux qui remportent haut la main une épreuve reçoivent une belle médaille d'or. Et les autres, argent ou bronze ou rien. Mais Dieu est grand. Dieu est majestueux. Dieu ne nous a pas écrasés dans sa victoire, mais il a remporté pour nous une victoire dont il nous fait partager les bienfaits. Le moins que l'on puisse dire, c'est lui apporter aussi notre hommage parce qu'il est le vainqueur. Et puis, il y a une troisième raison. On offre par amour. On offre des fleurs. On offre des cadeaux. Et vous êtes témoin qu'il y a 4 semaines et 1 jour, j'ai offert à ma nouvelle épouse une alliance par amour. C'était l'engagement visible d'une promesse faite. Voilà des raisons pour lesquelles Dieu nous demande d'offrir. Parce qu'il est plus grand que nous, parce qu'il est le roi, le Dieu, tout-puissant, créateur, parce qu'il nous aime et qu'en retour, nous l'aimons, lui qui nous a aimés le premier. C'est la raison pour laquelle nous offrons. Mais deuxième question, que lui offrir ? Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, un mot revient souvent. Le mot « prémisse ». Alors, je ne suis pas très doué avec l'informatique, donc j'en suis encore à la vieille école, j'imprime. Les prémices, c'est quoi ? On emploie peu, Étienne l'a confirmé tout à l'heure, ce mot. On n'est pas très familier de ce mot. Et dans les traductions récentes, il n'y est pas. Pourtant, il a un sens précis. Dans l'Ancien Testament, Dieu demandait aux cultivateurs d'offrir les prémices de ses récoltes, les premières gerbes, les premiers fruits de sa moisson. Et à ceux qui élevaient des animaux, aux éleveurs, il leur demandait d'offrir les premiers nés de ses troupeaux. Ce qui venait en premier, ce qui était prioritaire, devait être la part remise à Dieu. Mais je me suis mis un peu à la place d'un cultivateur ou d'un arboriculteur et je me suis dit, mais quand on voit les premières fleurs, les premiers fruits, les premières gerbes mûrir et se dire, ah, c'est pas pour moi, il faut que je les donne à Dieu d'abord. Ça ne devait pas être facile. Le cœur humain n'a pas beaucoup changé depuis les siècles et les millénaires. Quand je vois un arbre auquel j'ai consacré des soins, porté de beaux fruits, ma première mon premier mouvement, c'est prendre un fruit, le goûter et le prendre pour moi. Moi d'abord, Dieu ensuite. Mettez-vous un peu à la place de ces personnages à qui Dieu demandait les prémices de leur récolte, de leur troupeau. Quand moi j'entends prémices, j'ai beaucoup plus tendance à penser reste. Alors, qu'est-ce que nous offrons à Dieu ? Les prémices ou les restes ? Dieu d'abord ou moi d'abord ? C'est pas facile. En principe, c'est en théorie, c'est facile. Et nous l'avons chanté, et nous le savons tous pertinemment. Nous aimons dire à Dieu que nous lui offrons notre amour, une partie de notre temps, de nos biens. Toujours dans les meilleurs sentiments, je n'en suis pas convaincu, en tout cas dans ce qui me concerne. Quand Dieu dit « moi d'abord », moi je comprends « non, moi d'abord ». Toi ensuite, toi les restes. Alors j'aimerais faire quelques remarques générales qui donnent à réfléchir sur la relation entre les prémices ou les débuts, les premiers et les restes. Les restes, c'est pas toujours sûr qu'il y en a. C'est quelque chose d'aléatoire. Nous avons tous ici vu le début de la journée. Rien ne nous donne la garantie que tous nous en verrons la fin. J'ai lu dans le Quad 9 le décès de Roger Cook, un ami que j'ai beaucoup connu et beaucoup apprécié. Et j'étais évidemment surpris. Nous avons tous connu le début de l'année 2016. Un de nos frères n'en a pas vu la fin. Et nous n'avons pas la garantie que nous connaîtrons tous la fin de 2016. Tous, nous avons, et certains le sont encore, été jeunes. Tous ne seront peut-être pas vieux. Nous ne savons pas. Le début, il y en a toujours, des fins. Pas nécessairement et pas toujours pour tout le monde. De l'argent, il y en a toujours en début de mois. Pas beaucoup à la fin, peut-être pas du tout à la fin du mois. Vous comprenez qu'il y a une grande différence si Dieu nous demande d'abord moi, après s'il en reste pour vous. C'est une première remarque sur la relation entre les prémices que l'on peut toujours donner à Dieu et les restes que l'on n'a pas toujours pour les lui donner. Et puis il y a quelque chose qui émane de la nature même de Dieu. Quand on lui donne les prémices, il augmente les restes. Que de récits dans la parole de Dieu. Deux petits pains et quelques poissons qui ont été donnés et ça s'est transformé en repas gigantesque pour des milliers de personnes. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus ou par surcroît. Déjà dans l'Ancien Testament, vous connaissez l'histoire de la veuve de Sarepta. D'abord Dieu. Et la veuve a eu de l'huile suffisamment pour le restant de ses jours. Dieu n'est pas ingrat. Mais ce n'est pas moi qui le dis. Hébreux 6:10 dit « Dieu n'est pas ingrat ou pas injuste pour oublier vos efforts. » L'homme divise, Dieu multiplie. Une troisième remarque, c'est que la vie chrétienne ne se limite pas seulement à un choix entre le bien et le mal, entre la vie et la mort. Bien sûr, notre salut commence par là. Mais c'est aussi une lutte entre le bien et le mieux. Et c'est l'objet de toute la sanctification. Marcher de progrès en progrès dans tous les domaines de la vie chrétienne. Je vais prendre juste quelques textes bibliques ou quelques idées de la parole de Dieu. Nous avons appris qu'il faut donner. Et la Bible ajoute, Dieu aime celui qui donne avec joie. Deux gestes identiques, l'un honore Dieu, l'un est une offrande. Aimer, oui, nous devons, mais aimer de tout notre cœur, c'est faire un pas de plus. Marthe a bien servi le Seigneur Jésus-Christ. Elle avait bien fait, il fallait le nourrir. Et pourtant, c'est à Marie que j'ai dit qu'elle a choisi la bonne part ou la meilleure part. Nous sommes invités à rendre témoignage, mais les apôtres précisent qu'il vaut encore mieux rendre témoignage avec tact et sagesse. Il peut y avoir une grande différence entre les deux attitudes. Il est écrit « persévérer » et ailleurs « persévérer jusqu'au bout ». C'est une grande différence. Démas, le compagnon de Paul, avait persévéré un certain temps, pas suffisamment, puisqu'il a fini par abandonner l'apôtre par amour pour le siècle présent. Dieu, lui, n'a pas lésiné. Il nous a offert ses prémices, son premier-né. Il nous a aimé le premier et il a fait le premier pas. Il nous comble. Alors, je me suis aussi posé quelques questions concernant certaines prémices, c'est féminin pluriel, regardez dans le dictionnaire, que nous devons lui offrir. Et il y a ce que Étienne a déjà lu tout à l'heure, ce mot « premièrement », « chercher premièrement le royaume de Dieu ». Ça commence par chaque journée. Offrir chaque jour à Dieu le meilleur de la journée. Ce n'est pas forcément la première heure. Quand on vit dans l'agitation, quand il faut préparer les enfants pour les envoyer ou les conduire à l'école, quand il faut préparer, etc., etc., la maman ou le papa ou les deux ne sont pas forcément dans les meilleures dispositions pour dire « maintenant, vous attendez, je vais dans mon bureau, je vais lire, prier, etc. » Le meilleur moment, c'est celui où l'on est, où le corps est reposé, où l'esprit est dispo, où il y a autour de soi pas de bruit, pas d'obligation impérieuse. Mais c'est évident que déjà, pour chaque journée, des efforts s'imposent. Il y a tant à faire, même pour les retraités. Nous devons apprendre à mettre des priorités et à faire la distinction entre les prémices de notre temps et ce qui peut-être va en rester à la fin de la journée. Quand on a les yeux lourds, quand on est fatigué, quand on n'a plus envie de se coucher. À quel moment puis-je offrir à Dieu les prémices de mon attention? J'ai beaucoup apprécié ce que a dit tout à l'heure Adeline. Le meilleur moment pour lui offrir mon écoute, mais aussi mon dialogue, mes requêtes, ma reconnaissance. À quel moment où je ne suis pas bousculé par le temps ou par des activités qui s'imposent? Vous me direz, nous sommes tous occupés. Et j'ai connu un cadre qui avait de responsabilités importantes dans une entreprise. Il fallait qu'il soit à 8h30 tous les jours à son bureau. Et très souvent, il se levait à 5h le matin pour rencontrer Dieu avant de s'acquitter de ses obligations professionnelles. Ce n'était pas un pasteur, pas un retraité, un homme actif dans la fleur de l'âge. Bien sûr que pour offrir les prémices, Dieu l'ordonne, mais il faut ensuite exercer une discipline de vie, de bonnes habitudes à cultiver. Et vous savez que les bonnes habitudes, on commence à les cultiver dès l'enfance. Les promesses, quand je serai vieux, je te consacrerai du temps. Quand j'aurai pu à m'occuper de ma famille, quand je serai à la retraite, alors oui, je lirai la parole, alors oui, j'irai à l'église. La santé n'y sera peut-être plus, l'envie non plus, les moyens non plus. Nous devons apprendre cette discipline de réserver à Dieu les prémices, et je le répète, il ne s'agit pas seulement d'argent. C'est le temps, c'est l'attention, c'est l'amour. Hélas, moi, je suis tenté d'offrir les restes, hein, comme ceux qui sont là. Bâcler ma méditation entre deux choses à faire qui ne sont d'ailleurs pas toujours essentielles. Ça, c'est une des offrandes que je qualifie de quotidienne. Nous avons besoin de rencontrer Dieu tous les jours. Et puis, il y a d'autres services qui sont plus ou moins réguliers, plus ou moins fréquents. L'offrande des dons. J'ai beaucoup apprécié que Étienne a parlé d'offrande et pas de collecte. Je dirai un petit mot sur la différence tout à l'heure. L'offrande que nous venons de faire, c'est ce qui se rapproche le plus visiblement, visuellement, des prémices de l'Ancienne Alliance. On voyait les fruits, et c'était des choses essentielles que l'on offrait à Dieu qui, lui, les redistribuait en fonction des besoins. Paul donne un conseil et il dit « Le premier jour de la semaine, mettez à part. » Ce terme évoque un moment où l'essentiel est encore disponible. Une offrande qui soit prioritaire, lucide, responsable, réfléchie, bien sûr en tenant compte des impératifs et des engagements que l'on a déjà pris dans la vie, vis-à-vis de sa famille ou d'amis, quitte pourtant parfois à sacrifier des petites envies ou des petites lubies. J'ai lu cette histoire. Un dimanche, le pasteur d'une communauté dont la libéralité n'était pas la qualité principale dut parler à son auditoire en ces termes. « Mes frères, je vous avais sollicité après vous avoir informé que le toit du temple était percé. Je suis heureux de vous signaler que grâce à votre générosité, nous avons pu acheter, avec la collecte effectuée, 2 seaux pour recueillir l'eau quand il pleut. » Offrir ce qui reste, c'est courir le risque de ne rien offrir. Comme je l'ai dit, des prémices, il y en a généralement des restes, pas nécessairement. Et lorsque nous offrons, ce n'est pas un geste de condescendance. Dieu n'a pas besoin de mes dons. Il faut encore moins que ce soit un don hypocrite comme celui d'Ananias et Saphira dans le Nouveau Testament, qui était pourtant apparemment une somme importante. Mais c'était pour le paraître et Dieu ne veut pas. Rappelez-vous tant d'exhortations que ta main droite ne sache pas ce que fait ta gauche. Seul Dieu voit clairement, comme le Seigneur qui voyait la pitre de la veuve. Notre offrande, c'est la reconnaissance joyeuse, vraiment joyeuse, du salut que nous avons obtenu gratuitement. C'est le témoignage d'une dépendance que nous apprécions. Que serions-nous sans Dieu, sans ce berger ? Prouvons dans nos prémices à quel point nous apprécions de vivre dans la dépendance de Dieu. C'est aussi une marque d'amour et de solidarité envers nos semblables. Un don spontané ou une offrande spontanée qui n'est pas contraignante ni contrainte, mais réfléchie. Et puis, dans tous les cas, il faut premièrement rechercher le royaume de Dieu. J'ai été jeune, je ne le suis plus. Je m'adresse quand même aux jeunes. La jeunesse a des atouts. Alors, j'ai vu, c'est fantastique, il y en a déjà des centaines qui vont mettre leur force, leur vitalité au service de l'annonce de l'Évangile. Mais je peux quand même répéter ce qu'on m'a dit autrefois. La jeunesse, avec son enthousiasme, ses forces, son temps disponible, sa liberté. Et je le dis et je le redis, j'apprécie ce que les jeunes d'ici et d'ailleurs font. De nombreuses occasions de service que des plus âgés ne peuvent pas faire, infirmité ou autre obligation de la vie. Je vais tout simplement redire, n'attendez pas les restes de la vie. Il n'y a pas que les occasions de service. Ne pensez pas que la méditation de la parole soit réservée aux retraités. Je vous ai parlé de ce cadre qui, dans la fleur de l'âge, dans la force de l'âge, se levait à 5 heures du matin, il devait aller à son travail, il fallait qu'il y soit à 8h30. J'imagine qu'il ne se couchait pas à 2 heures du matin, qu'il avait une discipline de vie qui lui permettait de se lever frais et dispo et de rencontrer son Seigneur le matin. Et Dieu l'a béni. Dieu n'est pas ingrat. Ça ne veut pas dire qu'on récolte toujours. Non, Dieu à l'échelle du temps qui est différente de la nôtre. Et des chrétiens qui auront fait des efforts et des sacrifices durant toute leur vie ne verront peut-être rien de récompensé ici-bas. Mais dans combien de cas on voit la grâce de Dieu qui se manifeste dans la manière dont il bénit ses enfants. N'attendez pas, n'attendons pas les restes de la vie, les années de retraite et les forces physiques et intellectuelles qui déclinent. Je le redis en conclusion, Dieu n'a pas besoin de mes offrandes. Il possède tout. Pourtant, il attend mes offrandes de temps, de moyens, de force, comme quelque chose que je lui offre avec amour et fidélité. Mon offrande, et là je vais revenir sur la différence entre offrande et collecte. Dieu n'attend pas que je lui donne mon temps ou mes biens comme une collecte de vêtements usagés. Des choses dont je peux me passer. Dieu n'attend pas mon offrande, encore moins comme une collecte d'ordures ménagères dont j'ai hâte de me débarrasser, parce que ça m'encombre. Elles ont un tout petit intérêt, elles sont brûlées dans un incinérateur et chauffent quelques quartiers d'une ville. Dieu n'attend pas mon offrande comme une collecte que brutalement je découvre lorsque la Croix-Rouge passe et que je fouille dans ma poche, il me reste encore un euro ou une fraction d'euro, ou si je suis à la maison, que je racle les fonds des tiroirs pour les lui offrir. Dieu, premier servi, Dieu, la meilleure part. David, dans l'Ancien Testament, a dit une parole sublime. Je n'offrirai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. L'offrande doit me coûte, mais en fait, ce n'est même pas vrai. J'ai l'impression que ça va me coûter du temps. Et quand j'ai fini, quel bonheur. J'ai l'impression que j'ai fait des sacrifices. Et quand je fais le bilan, c'est Dieu qui m'a donné. Dieu mérite des offrandes qui humainement nous coûtent, en temps ou en bien. Offrir, c'est lever les mains vers Dieu. Collecter, c'est tout à fait différent. J'ai plus de 60 ans de vie chrétienne derrière moi, et quand même j'ai du mal. Et je demande vraiment à Dieu de m'aider à lui conserver les prémices de mon temps, de mes forces et de mes biens. Que Dieu nous y aide aussi chacun.